Philippe vous présente Alternative, une semaine sur deux, le vendredi à 17h, en alternance avec le samedi à 13h. Il évoquera les pistes différentes qui tentent de résoudre les grands défis de notre époque.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, depuis le 16 janvier dernier, lors des événements aussi dramatiques, on n'a jamais parlé autant de la laïcité. Laïcité par-ci, laïcité par-là, on en parle, sans trop parfois savoir ce que représente le concept. Beaucoup pensent que c'est important, certains pensent que c'est acquis, mais est-on assez vigilant ? Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui M. Jean Tufou, passé grand maître adjoint du Grand Orient de France, très qualifié pour nous en parler, car la laïcité a toujours été le grand combat des francs-maçons et du Grand Orient de France en particulier. Allô Jean Tufou ?
Oui, bonjour.
Bonjour Philippe Mangeard. Vous êtes donc passé grand maître adjoint du Grand Orient de France, l'obédience maçonnique qui précise dans ses statuts qu'elle attache une importance fondamentale à la laïcité. Est-ce que vous pouvez définir le concept de laïcité et en quoi peut-il être le pilier du pacte républicain ?
Oui, je crois que au niveau du Grand Orient, la laïcité est inscrite dans nos tablettes, dans le marbre. Et je crois que c'est important d'essayer de comprendre la société au sens de l'idéal laïque. Parce que la laïcité telle que nous la définissons, et je crois que c'est pas une mauvaise définition, c'est que nous pouvons croire ou ne pas croire. Et c'est la liberté absolue de conscience qui nous anime. Parce que justement, cette laïcité est un contrat fondateur dans le cadre de la République. Et c'est la liberté donc de conscience qui exclut toute contrainte religieuse. Ce qui ne veut pas dire pour autant que nous sommes anti-religieux, bien au contraire, nous sommes dans le respect de l'ensemble des croyances ou des non-croyances.
Là, actuellement, on entend parler d'un peu de tout et n'importe quoi. On entend parler de laïcité ouverte, de laïcité positive. Est-ce que ce ne serait pas pour brouiller les cartes dans un certain sens ?
Oui, peut-être. Moi, je pense que la définition de la laïcité n'a pas à avoir d'objectif. La laïcité est une. C'est la laïcité telle que nos anciens l'ont définie, telle qu'ils l'ont pratiquée et qui a été mise en exergue par la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Et puis, basta, comme dirait l'autre, quoi. C'est pas la peine de... Mais seulement chacun essaie d'aménager la laïcité à sa sauce politique. La laïcité n'est pas politique. Elle est philosophique, elle est sociétale, elle est tout ce que vous voudrez, sauf un prétexte politique.
Bien. Ben là, vous venez de me parler de la loi de
1905,
voilà. Il y a une loi aussi en 1901, est-ce qu'elle est suffisamment appliquée ?
Oui, alors la loi de 1901, c'est la loi des associations. Hein, crois que c'est important dans le cadre de la République et dans le cadre du débat humaniste qui nous préoccupe, de s'appuyer justement tour à tour sur ces deux lois, parce que la loi d'association est fondamentale dans le cadre de la liberté de la République, et la loi de 1905 est fondamentale dans le cadre du respect des cultes et du respect des croyances ou des non-croyances. Je rajoute de chaque fois non-croyances, parce qu'on a souvent tendance à oublier les non-croyants.
Bien. Et est-ce que, que penser de certains politiques qui affirment que l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur ? Est-ce qu'il n'y a pas là une certaine dérive vers le communautarisme ?
Ben, c'est le grand problème de la société actuelle. Hein. Je pense que peut-être que d'aucuns n'ont pas été assez fermes, ou on a par laxisme ou par tendance à vouloir à à vouloir être œcuménique, accepter tout et son contraire, et à partir de là, nous sommes en train de payer l'addition de façon très lourde, et même des fois de façon dramatique pour certains par rapport à certains événements que nous avons vécu. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir, et ça doit raffermir et renforcer l'apprentissage de la laïcité, la pédagogie de la laïcité, parce que les gens sont un peu dénudés devant ce terme de laïcité, parce qu'ils ne la comprennent pas. Et il n'y a aucun impératif de la part de la laïcité pour imposer quoi que ce soit, au contraire.
Et voilà, donc vous parlez de pédagogie de la laïcité, j'entends bien. Quand on entend pédagogie, on parle forcément de l'école. Alors, est-ce que la défense de la laïcité passe par un soutien appuyé à l'école laïque et gratuite ?
Ben oui, ça va de soi que l'école laïque, gratuite, obligatoire, c'est un des piliers, mais il faut faire avec les temps qui viennent. Il y a aussi des écoles entre guillemets privées qui peuvent aussi avoir des ferments de laïcité, mais je pense que ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est des écoles confessionnelles qui peuvent avoir leur vertu, mais qui sont des écoles d'enfermement. L'intérêt, c'est qu'à un moment donné, l'ensemble des philosophies se mélangent, et la seule école qui permet ce mélange, des fois détonnant d'ailleurs, mais souvent étonnant, c'est l'école laïque, c'est l'école de la République. Bon, maintenant, on n'est pas des ayatollahs hein, de la laïcité, bien au contraire. Donc, toute réflexion est possible à partir de ces valeurs et de la transmission de ces valeurs.
Et dites-moi, la laïcité n'est pas tout à fait appliquée partout sur le territoire national. Je pense aux lois du Concordat en Alsace-Moselle. Qu'est-ce qu'il en est à ce sujet ?
J'ai pas très bien entendu là.
Voilà, je voudrais vous parler de la loi sur la laïcité qui n'est pas appliquée partout, c'est-à-dire je pense à la région Alsace-Lorraine qui est encore sous les lois allemandes.
Oui, ça c'est le problème du Concordat. Le Concordat, ça fait partie de notre histoire et des difficultés de notre histoire et des va-et-vient sur ces régions d'Alsace-Moselle, notamment par rapport aux périodes d'occupation allemande et d'occupation française. Or, il s'avère que derrière l'esprit des religions et le Concordat, il y a aussi des tas d'avantages sociaux qui ne sont pas exprimés et qui fait que les gens qui sont sous le régime concordataire n'ont pas trop envie de le voir changer, et que les politiques n'ont aucun courage, ce qui peut se comprendre ou ne pas se comprendre, pour appliquer sur l'ensemble du territoire le principe laïque. Je pense que normalement, un principe laïque doit s'appliquer sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a l'Alsace-Moselle, mais il y a aussi un certain nombre de territoires d'outre-mer où là, les choses sont encore plus dramatiques.
Ah bon ? Allô, oui, je vous entends. Et à quels sont les territoires d'outre-mer où c'est plus dramatique à ce point de vue ?
Je pense à Mayotte notamment, entre autres, où c'est quasiment tribal, quoi. Et bon, mais ça fait partie aussi de l'histoire civilisationnelle de ces territoires-là. Donc je pense que l'esprit de la laïcité n'a pas de dérogation à avoir, mais il est évident que quand on est après dans la pratique d'un pouvoir, il y a des compromis permanents. Et ces histoires de concordataires sont partie du compromis permanent, mais on peut le regretter.
Et oui, bien sûr. Alors maintenant, je voudrais vous parler de l'Europe. Bon, évidemment, on est partie prenante sur l'Europe. En Europe, il n'y a que la France et le Portugal qui appliquent le principe de la laïcité. Alors, à ce point de vue, est-ce que la laïcité est-elle bien comprise par nos voisins européens ?
Je crois que justement, je parlais tout à l'heure d'un déficit pédagogique à l'interne. Je crois que le déficit pédagogique, il est au niveau de l'Europe. Il y a tout un travail à réaliser au niveau européen. Et puis il y a un problème avec le terme de laïcité. Alors peut-être que il ne faut pas insister sur le terme, mais il faut se battre surtout sur le principe de la liberté absolue de conscience. Et c'est vrai que la France est un des rares pays, bon, avec peut-être le Portugal, encore que, il faut regarder ça de plus près, c'est le seul pays vraiment qui met en exergue le principe de laïcité. C'est très très compliqué pour être européen et vivre sereinement la laïcité. Mais je crois que, quelque part, elle est incontournable parce qu'elle elle permet cette liberté absolue de conscience qui est capitale. Et on l'a vu dans les événements qui viennent de se passer, que sans liberté absolue de conscience et sans respect de l'autre, on ne peut pas avancer. La preuve est faite, c'est ces attentats, ces assassinats qui ont eu lieu, qui ont été perpétrés, par de véritables fachos, de véritables fascistes.
Voilà,
pour pas confondre donc tous ces gens-là avec ce fascisme ambiant, parce que après, tout le monde a droit de pratiquer sa religion et la religion qui est mise en exergue en ce moment, c'est plutôt les musulmans, mais il y a 99% de musulmans qui pratiquent dans le calme et la sérénité et leur foi tout à fait normalement et qui ne pose aucun problème. Et bon, c'est comme ça, hein, il faut faire avec et c'est très compliqué parce que derrière, il y a tout un problème de géopolitique qui se pose à nous et qui complexifie complètement les tenants et les aboutissants de notre pédagogie, de nos pratiques et de nos questionnements.
Mmh. Alors, en 2001, le Grand Orient a publié un livre blanc de la laïcité et mis en place en 2005 les chantiers de la laïcité. Alors, qu'en est-il de ces travaux ?
Ben, écoutez, je crois que le Grand Orient a toujours une position claire sur la laïcité. Le problème, c'est que le Grand Orient n'est pas ni un parti politique, ni un syndicat. Le Grand Orient donne du grain à moudre à l'ensemble de ses adhérents sur une réflexion. Et je crois qu'à un moment donné, il y a une portion sur laquelle on peut se mettre d'accord, c'est la portion de la liberté de conscience, comme je l'ai dit à plusieurs reprises lors de cet entretien. Maintenant, le Grand Orient travaille sur ces principes de laïcité. On n'est pas les seuls. Il y a aussi d'autres obédiences qui travaillent là-dessus. Je crois que ça fait partie de nos fondamentaux, mais c'est très compliqué à expliquer. Parce que moi, par exemple, qui fais quelques conférences sur la laïcité, j'ai été confronté à des incompréhensions terribles qui font que souvent les gens pensent que la laïcité est anti-religion. Et c'est répercuté à plusieurs niveaux, et notamment souvent dans la presse, quand on dit la laïcité, mais vous êtes un monsieur, vous êtes anti-religieux, vous êtes contre les religions, mais pas du tout. Et il faut faire comprendre que la laïcité est au-dessus des religions, ou au-dessous, comme vous voudrez, selon où vous situez, mais qui, de toute façon, cette laïcité n'a rien à voir avec les religions. C'est pas une laïcité qui serait une religion à part. C'est une forme de philosophie absolue qui dépasse l'ensemble des religions et qui permet justement à ces religions de se comprendre, de se parler, de débattre, de dialoguer, des religions et aussi des non-religions. C'est-à-dire qu'il faut inclure dans le principe de laïcité les athées et les agnostiques.
Finalement, si je vous suis bien, on peut prendre la laïcité comme étant le ciment du vivre ensemble.
Parfaitement, si tout le monde arrivait à le comprendre et si tout le monde avait une forme de raison et de compréhension du terme. Mais hélas, il y en a qui ne veulent pas le comprendre et puis il y en a qui font tout pour ne pas le comprendre parce que justement ils ont des intérêts à ce que ils sont en domination, ils se servent d'un dogme pour dominer les autres, notamment dominer d'autres peuples et dominer aussi notamment les femmes, etc., etc. Et ça, c'est très compliqué. Mais je pense que la religion, les religions sont faites de paroles d'amour, de paroles de compréhension, de paroles qui vont dans le sens de la compréhension de l'autre, et c'est complètement inadmissible qu'on en arrive à des situations telles que nous l'avons vécu ces derniers temps et comme nous le vivons encore.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Jean Tufou d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Vous étiez sur Radio Barthas et j'espère que cet entretien aidera les auditeurs à mieux comprendre la laïcité.
Ben, je vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'est terminé. Je voudrais dire enfin que la laïcité, vous l'avez bien compris, n'est pas une vieille lune. qu'elle est capitale pour la cohésion sociale, pour lutter contre les communautarismes et simplement pour le vivre ensemble. Voilà, donc je vous engage donc bien sûr à réécouter l'émission sur le www.radiobartas.net. Et on se quitte sur la chanson de Jean Ferrat, Ma France. Salut!
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit pour la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas tes artistes prophètes de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.